le 4e centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Buglose, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la société de Borda, associée au diocèse d'Eredax, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022. Les Servantes de Marie à Buglose, un modèle d'implantation pour une congrégation dans les Landes. Voici l'intervention de Nicolas Champ.
Comme vous voyez, le titre définitif de la communication que je vous propose est un peu plus restreint que celui qui était annoncé. Il y a la mention de la durée évoquée, donc 19e siècle. Je n'évoquerai pas la présence des Servantes de Marie au 20e siècle, je connais moins bien. Les grandes lignes de la présence des Servantes de Marie à Buglose sont très bien rappelées dans le dictionnaire qui a été présenté tout à l'heure. Je les rappelle de manière liminaire. Elles arrivent ici en 1852, sous l'impulsion du fondateur de la congrégation, le Père Sestac. La congrégation a une triple fonction, aide à l'organisation, à l'accueil du pèlerinage, une fonction scolaire et un accueil de personnes pieuses. Donc ce sont les trois fonctions initiales. Donc quoi apporter de neuf, si ce n'est les mettre un peu en perspective, mieux éclairer leur singularité, leur originalité ou leur normalité dans le paysage religieux landais au XIXe siècle. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut parler de modèle ou d'exemplarité de l'implantation des Servantes de Marie à Buglose. La présentation des congrégations dans le diocèse, voilà ce qui était écrit il y a déjà quelques décennies par l'abbé Lacouture dans son Histoire religieuse et politique des Landes, où il évoque de manière très discrète la présence de ces congrégations religieuses au XIXe siècle. Elles s'établirent peu à peu dans le diocèse. Vous voyez, il mentionne quelques congrégations masculines et féminines, les frères des écoles chrétiennes, les filles de Sainte-Thérèse, les carmélites, les ursulines, les dames de Lorette, de la Réunion, la doctrine chrétienne, Sœur de la Croix et de la Conception, Sœur de Nevers et enfin Servante de Marie. Et de fait, depuis ces lignes écrites par l'abbé Lacouture en 1940, on manque toujours d'une vue d'ensemble sur ce phénomène central, ça a été rappelé incidemment ce matin, ce phénomène central qui est l'explosion congréganiste au XIXe siècle et l'explosion congréganiste dans le diocèse d'Erdax. Donc c'est ainsi qu'il était intéressant de se pencher sur les Servantes de Marie et les Servantes de Marie à Buglose, avec les deux questions qui vont guider un peu l'exposé. Donc c'est vraiment une mise en perspective pour voir la singularité ou la normalité de cette implantation. Donc quelle singularité pour l'installation des Servantes de Marie ici, et en quoi elle est exemplaire donc de cet essor des congrégations religieuses féminines dans les Landes au XIXe siècle. Alors, quels sont les éléments centraux? Rappelez d'abord qu'il y a une singularité landaise dans le paysage congréganiste régional, car l'essor des congrégations religieuses au XIXe siècle, ça passe avant tout par un phénomène central qui avait été étudié dans les années 1980 par Claude Langlois, c'est l'essor des congrégations religieuses dites à supérieur général. Et les congrégations religieuses à supérieur général, c'est celles qui ont l'autorisation de créer plusieurs maisons qui ne se renferment pas dans une seule maison, une seule implantation. Donc c'est le phénomène central de ce renouveau des congrégations religieuses au XIXe siècle, et surtout c'est l'essor de congrégations avec un visage essentiellement de vie active, avec triple fonction, action charitable en sens large, l'action de soins et l'action d'enseignement. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que s'explique l'explosion congréganiste au XIXe siècle, avec en particulier plusieurs grandes congrégations nationales, bien connues ici aussi. D'une part, les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, dont je reparlerai incidemment, et d'autre part, donc c'est la grande congrégation du XIXe siècle, les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, et d'autres congrégations qui explosent aussi au XIXe siècle d'ampleur nationale, comme les Filles de la Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui ont quelques implantations également dans le diocèse. Mais voilà un peu le paysage. Quelle singularité? C'est quand on regarde justement les congrégations enseignantes à supérieur général du sud-ouest aquitain, entendu au sens large, au XIXe siècle, vous le voyez, beaucoup de diocèses disposent quand même d'une congrégation locale, un rayonnement local avant tout, à supérieur général. Vous voyez dans les diocèses figurer à plusieurs reprises Bordeaux, Poitiers, mais on note l'absence du diocèse d'Erdax et la présence de Bayonne seulement à travers les servantes de Marie. Excusez-moi, les servantes de Marie. Vous le voyez, là ce sont les dates de fondation, à bien différencier des dates de reconnaissance par l'État comme congrégation supérieure générale. Vous voyez pour les servantes de Marie, la naissance se fait en plusieurs temps. Il y a d'abord une œuvre charitable locale en 1836, organisation en congrégation en 1842, et au final, la reconnaissance, comme, reconnaissance légale par l'État comme congrégation supérieure générale, ça va se faire seulement en 1852. Donc ça prend du temps. Et donc vous le voyez, dans les Landes, pas de congrégation à supérieure générale. Donc quel est le paysage congréganiste féminin au XIXe siècle dans les Landes? Là aussi, on peut se rendre compte qu'il y a un timide essor qui s'observe. À la veille de l'arrivée des servantes de Marie à Buglos en 1852, voilà la répartition des 32 maisons présentes dans le diocèse. 32 maisons présentes dans le diocèse, c'est extrêmement modeste, c'est un peu paradoxal dans la mesure aussi, où à côté, par contre, il y a déjà un grand dynamisme religieux dans le diocèse, notamment à travers le quadrillage paroissial, ça a été rappelé ce matin également incidemment. Vous avez en 1830 302 paroisses en diocèse, à l'époque il y avait à peu près 360 communes, donc pratiquement pas une paroisse par commune, mais quasi, et le réseau continue à augmenter jusqu'au milieu du XIXe siècle, donc un très fort quadrillage paroissial, ce qui implique une forte présence cléricale dans le diocèse. Mais vous le voyez, 32 maisons en 1851 pour 340 communes, c'est un réseau quand même très, très lâche. Vous voyez les congrégations qui sont présentes. Vous avez trois maisons d'Ursuline, notamment, deux localités avec les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, les sœurs de la doctrine chrétienne qui sont une congrégation de Bordeaux. Et les Ursulines, ce sont en fait des maisons indépendantes, où il n'y a pas de connexion entre les différentes maisons. Elles sont implantées donc à Air, à Saint-Sever, pardon, et Tartas. Non, avec reconnaissance entre 1826 et 1831. Les autres congrégations présentes, vous le voyez, sont donc toutes extérieures au diocèse. Donc congrégation bordelaise avec doctrine chrétienne et Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est une branche de la Sainte Famille fondée par le Père Noailles. Donc c'est la branche également spécialisée dans l'éducation féminine. Et la congrégation qui est très présente, vous voyez en termes de nombre de maisons, ce sont les filles de la Croix. Mais ces filles de la Croix, en réalité, c'est une congrégation, elle a été évoquée ce matin, c'est une congrégation qui est née dans le diocèse de Poitiers, mais qui a une très forte implantation également dans le sud-ouest aquitain, enfin dans la partie la plus méridionale de l'Aquitaine, tout simplement parce qu'elle s'implante dans le diocèse de Bayonne au milieu des années 1820, elles vont disposer de noviciats dans les Basses-Pyrénées, ce qui va permettre d'alimenter ensuite en vocation à la fois les Basses-Pyrénées et les Landes. Si on change de focale et qu'on regarde un peu le nombre de religieuses en 1861, vous voyez ici la répartition des religieuses dans les maisons religieuses landaises sous le Second Empire. Et vous le voyez, le poids est un peu différent si on regarde le nombre de religieuses par maison. Vous voyez, les Ursulines avec trois maisons sont extrêmement présentes. Il y a 98 religieuses, donc c'est des maisons très densément occupées. En revanche, les filles de la Croix avec 22 maisons et les servantes de Marie avec une douzaine de maisons abritent un nombre bien moindre de religieuses, tout simplement parce que c'est des maisons beaucoup plus modestes, deux religieuses, trois religieuses la plupart du temps, qui se vouent à des missions avant tout d'enseignement de classe populaire, tandis que les Ursulines, c'est aussi une éducation plutôt de type pensionnat pour les jeunes filles de bonne famille. Donc vous voyez déjà une reconfiguration progressive du paysage religieux landais. Et ça s'observe quand on regarde sur le long terme entre le milieu du 19e siècle et les années l'année 1900. Donc vous voyez ici la courbe de croissance du nombre de maisons religieuses. Vous voyez, il y a une explosion du nombre de maisons religieuses jusqu'au seuil des années 1880, c'est-à-dire au moment où la Troisième République est dirigée par un personnel républicain. Donc très forte croissance de ce nombre de maisons religieuses. Et vous voyez progressivement les hiérarchies changer, puisque apparaissent, j'y reviendrai plus en détail par la suite, deux congrégations qui dominent nettement. Donc en orange, les filles de la croix, et en vert, les servantes de Marie. Et progressivement, on le reverra dans le détail, les servantes de Marie passent dans le diocèse d'Erdax devant les filles de la croix en termes de nombre de maisons religieuses. Et le point de départ dans le diocèse, c'est la maison qui nous occupe ici, Bouglose, en 1852. Donc forte croissance, mais vous le voyez également, fragmentation du paysage religieux dans le diocèse. Si on regarde justement à la veille des grandes lois anticongréganistes en 1900, donc les lois qui vont s'étaler entre 1901 et 1904, vous le voyez ici, vous avez énormément de congrégations différentes présentes, certaines avec très peu de maisons, d'autres avec un nombre un peu plus significatif de maisons, mais avec donc une très grande fragmentation du paysage congréganiste. Certaines congrégations avec des origines assez éloignées sont présentes uniquement avec une seule maison. Dans celles qui sont citées ici, vous avez par exemple les Dames de Lorette ou Notre-Dame de Lorette, qui ont longtemps été en charge du cours normal d'institutrices du département. Donc c'est elles qui étaient en charge de la formation des institutrices laïques du département. Donc ce qui montre le poids de ces congrégations religieuses dans la vie à la fois religieuse et scolaire du département, ce qui se confirme quand on examine l'œuvre clé de ces congrégations au XIXe siècle, c'est la mission de scolarisation. Voyez ici la répartition au niveau départemental des filles dans les écoles non mixtes. Hein, c'est école de, excusez-moi, au niveau des écoles de filles, on envisage, j'ai pas les chiffres pour les écoles mixtes. Le poids des petites filles éduquées dans les écoles congréganistes reste dominant. Enfin, il y a plus de petites filles dans les écoles congréganistes jusqu'au début des années 1880. Et ça s'observe parfois de manière locale. La seule école disponible localement, ça va être l'école congréganiste. C'est le cas, j'y reviendrai, à Bouglose et à Saint-Vincent-de-Paul, où jusqu'au début des années 1880, à Saint-Vincent-de-Paul, c'était les filles de la charité, et à Bouglose, c'était les servantes de Marie. Et vous n'avez un repli très, très progressif qu'à la fin du XIXe siècle, pas tant par un léger recul du nombre de filles dans les écoles congréganistes, que surtout par un très gros effort au niveau des écoles laïques. Et ce repli des écoles congréganistes, en fait, ça va vraiment se confirmer, et c'est ce qui se vérifie aussi localement à Bouglose, puisque les servantes de Marie quittent la direction de l'école en 1903, enfin l'école ferme en 1903, par toute la législation du début du XXe siècle. Quand on examine un peu les effectifs des différents types d'écoles qui existent à la fin 19e, début 20e siècle. On a à ce moment-là à la fois des écoles publiques laïques, des écoles publiques congréganistes, des écoles privées laïques et des écoles privées congréganistes. Donc déjà, notez au passage que vous avez un certain nombre des écoles publiques congréganistes continuent à exister dans le département, bien au-delà de la législation de Jules Ferry qui invite à la laïcisation des programmes et du personnel de l'enseignement public. Donc très ferme présence jusqu'à la fin du XIXe siècle, même début du XXe siècle, de cette présence dans les écoles publiques. Et avec le changement de législation au début du XXe siècle, cette part congréganiste va s'effondrer. Il y a plusieurs lois qui expliquent ce phénomène. Tout d'abord, la loi de 1901 sur les associations, qui comporte tout un volet beaucoup plus contraignant pour les associations religieuses, avec normalement autorisation, vote par la Chambre des députés. Et surtout, la loi, donc déjà, un certain nombre de congrégations ne réussissent pas à passer ce cap-là, et ça va être le cas pour les écoles des servantes de Marie. Et surtout, à partir de 1904, vous avez une loi qui interdit aux congrégations la fonction d'enseignement. Donc, autant vous dire que pour les congrégations qui ont comme pour mission exclusive que l'enseignement, ça signifie leur mort à très, très brève échéance. Et donc là, vous voyez que explose dans les années 1900, enfin, explose peut-être pas, mais augmente de manière très forte, au tout début du XXe siècle, le poids des écoles publiques laïques dans, comme lieu de scolarisation des petites filles, et la disparition des écoles congréganistes, publiques comme privées, ne se traduit pas par la création d'écoles catholiques laïque dans une même mesure. C'est ce qui va s'observer aussi à Buglos, puisque l'école des servantes de Marie 1903, par la suite, dans l'immédiat, il n'y a pas de substitution par une autre école dirigée par une laïque. Donc là, ça se vérifie également au niveau départemental. Si on examine les servantes de Marie en tant que telles, vous l'avez déjà repéré dans les diapositives précédentes, elles sont très fortement présentes dans les Landes parce que tout simplement les Landes, c'est le deuxième lieu d'implantation de cette congrégation au niveau national. Vous voyez, quand on regarde l'ensemble des écoles créées, les servantes de Marie ne s'occupent pas que d'écoles, il y a aussi parfois des hospices, notamment qui sont dirigés par les servantes de Marie. Quand on regarde que les écoles, vous avez un gros tiers qui sont créés dans le diocèse de Bayonne, et plus d'un cinquième dans le diocèse d'Aire, d'Aix. Et ensuite, le reste est très dispersé. C'est lié parfois à des relations personnelles du père Sestac avec l'évêque du diocèse, ou par des appels spécifiques de personnalités qui connaissaient par ailleurs les servantes de Marie parce qu'elles avaient des attaches dans les Landes ou dans le diocèse de Bayonne. Donc déjà, un très fort tropisme landais de cette congrégation, et à la limite même un tropisme plus landais que bas-pyrénéen, car quand on regarde les concurrences entre les deux principales congrégations dont je vous ai parlé, les Filles de la Croix et les Servantes de Marie, voilà la situation, le déséquilibre qu'on continue à observer dans le diocèse de Bayonne. Vous voyez que les Filles de la Croix dominent très nettement l'offre de scolarisation dans le diocèse de Bayonne, c'est très net. Il n'y a quasiment aucune autre congrégation présente dans le diocèse, à part ces deux-là, pour assurer l'éducation des petites filles. Donc là, vous voyez, il y a c'est quasiment un rapport d'un pour deux au début du XXe siècle entre les Filles de la Croix et les Servantes de Marie. En revanche, quand on regarde la situation dans le diocèse d'Aire, la situation est assez inversée, puisque au démarrage, en 1851, vous n'avez que les Filles de la Croix qui sont présentes. Dès pratiquement à peine moins de 15 ans après leur première maison, donc à Buglos, les Servantes de Marie jouent quasiment à jeu égal avec les Filles de la Croix, et à partir des années 1870, et puis ça se confirme au-delà, les Servantes de Marie dominent l'offre scolaire du département. Si on examine le rythme de création de ces écoles de Servantes de Marie, voyez ici la répartition au niveau national, c'est quasiment la même. Je crois que je me suis. C'est celle-ci. C'est quasiment la même que dans les Landes. C'est-à-dire qu'il y a des gros pics en fait de création d'écoles, vraiment à l'époque du fondateur, du père Sestac. C'est-à-dire que le père Sestac, ça a été indiqué ce matin, il décède en 1868. Vous voyez, l'essentiel des fondations date du fondateur. Au-delà, il y a quelques créations dispersées. Il y a quelques créations que je n'ai pas mentionnées dans les années 1890, mais qui révèlent en fait un changement d'orientation de la congrégation vers la mission de soins. Et vous le voyez, donc c'est vraiment extrêmement lié à la personnalité du fondateur et également un contexte politique national et local extrêmement favorable à la présence des congrégations dans l'enseignement. Je ne l'ai pas évoqué dans les mots introductifs, mais il ne faut pas oublier qu'on se situe sous le contexte de la loi Falloux, passée en 1850, qui est très facilitante pour l'ouverture d'écoles dirigées par des congrégations religieuses, puisqu'il suffit d'une lettre d'obédience de la supérieure générale de la congrégation pour que n'importe quelle religieuse puisse ouvrir une école. Tandis que pour une institutrice laïque, il faut passer par un brevet de capacité, par un examen par les instances académiques, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est ce contexte-là qui explique l'explosion en fait de la présence congréganiste des servantes de Marie dans le diocèse. Si on regarde les entrées landaises à la congrégation des servantes de Marie, alors là c'est un sondage partiel, c'est-à-dire que j'ai examiné le registre des sœurs de la congrégation pour des lettres A à L, ça prend déjà beaucoup de temps, j'ai pas encore fini. En regardant exclusivement les entrées landaises, c'est en fait les entrées landaises, c'est très peu de choses par rapport aux entrées issues du diocèse de Bayonne. L'essentiel des cohortes, c'est vraiment le diocèse de Bayonne qui les fournit. Mais ça permet de se rendre compte que les entrées landaises dans la congrégation des servantes de Marie obéit que très partiellement au contexte politique national, parce que vous le voyez, bon, il y a beaucoup d'entrées à l'époque du fondateur sous le Second Empire. Il y a une chute dans les années 1870, début des années 1880, vraiment au moment où le contexte politique national change avec un effort plus grand donné à l'enseignement laïque. Mais par la suite, le niveau d'entrée des novices landaises dans la congrégation reste relativement stable, 3 ou 4 par an, ce qui est tout à fait honorable en termes de recrutement ou de vocation. Pour autant, dans le contexte local, il y a une fragilité qui est très nette, qu'on retrouve surtout quand on compare avec les Basses-Pyrénées, c'est que les écoles, on l'a vu tout à l'heure, les servantes de Marie sont souvent à la tête d'écoles publiques congréganistes. Quand les municipalités font le choix de laïciser le personnel dirigeant les écoles, vous voyez dans le cas des Basses-Pyrénées, l'école publique est laïcisée, mais pratiquement immédiatement, la majorité des écoles congréganistes réouvrent sous forme d'écoles libres, d'écoles privées. C'est le cas des Basses-Pyrénées. En revanche, dans les Landes, pour 8 écoles qui ferme, vous n'en avez que 2 qui rouvrent comme école libre catholique. Donc, une plus grande fragilité des écoles des servantes de Marie dans le diocèse d'Aire, qui s'explique probablement aussi par un nombre de bienfaiteurs laïcs ou de moins nombreux pour financer les œuvres. Mais c'est très net la différence entre les deux. Et vous voyez, ça va être vraiment l'hécatombe dans les deux départements au moment de l'application des lois de 1904, car très peu d'établissements se reconvertissent immédiatement sur une autre mission que l'enseignement. Et c'est le cas à Buglos, où vous avez une absence jusqu'en 1917, avec une autre fonction à partir de 1917. Donc si on a envie, dans le cadre des servantes de Marie au pied de Notre-Dame de Buglos, présence singulière, oui et non, quand on regarde le détail. La source essentielle, et c'est pour ça que j'ai préféré recontextualiser cette présence, c'est, je vous ai reproduit la première page, c'est l'historique des fondations des servantes de Marie. C'est un document qui a été rédigé par la congrégation pour tous les établissements au début du XXe siècle, dans le cadre d'une œuvre mémorielle, d'une certaine manière, au moment où les établissements ferment les uns après les autres du fait de la législation. Et ça permet, en fait, quand on examine ce document, ça permet de remettre un peu en perspective et d'essayer de voir s'il y a une originalité ou pas, ou plutôt un modèle. Modèle, oui, au sens où c'est la principale mission, c'est l'œuvre, enfin l'une des principales missions, c'est l'œuvre scolaire. Elle va vraiment essaimer de ce point de vue-là dans le reste du département, dans le reste du diocèse. Avait été envisagé un noviciat à Buglos, je n'ai pas eu l'impression, c'est resté un vœu pieux, mais je n'ai pas eu l'impression que c'est fonctionné de manière pérenne. Et surtout, ce qui est intéressant, et c'était déjà évoqué ce matin, c'est que l'implantation des servantes de Marie à Buglos est très proche de ce qui se passe dans le diocèse de Bordeaux à côté, à Verdelais. C'est-à-dire qu'à Verdelais, vous avez une chronologie presque identique, un peu décalée et en amont, enfin, c'est plus précoce à Verdelais. À Verdelais, Monseigneur Donnet appelle les maristes à Notre-Dame de Verdelais en 1838, et 4 ans plus tard est appelée la congrégation de la présentation de Marie, donc congrégation féminine, qui a aussi pour mission d'assurer l'accueil au pèlerinage. Donc c'est des missions quasiment identiques de celles qui vont être données aux servantes de Marie à Buglos. Donc là, ça a été évoqué ce matin, clairement une imitation des deux modèles de fonctionnement entre Verdelet et Buglos, c'est sûrement une réalité et quelque chose qui se vérifie. Dans les œuvres qui sont présentes donc à Buglos, outre la mission d'accueil des pèlerins, de manière assez standard, c'est évoqué dans la notice, dans la notice du dictionnaire, va se rajouter une salle d'asile à la fin de salle d'asile, c'est-à-dire une école maternelle à la fin du XIXe siècle. Et là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent et très fréquent dans les congrégations religieuses féminines. Les écoles maternelles au XIXe siècle, c'est avant tout assuré massivement par les congrégations religieuses. C'est-à-dire que les principales congrégations religieuses qui sont en charge de ces salles d'asile, c'est les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Donc là, clairement, c'est tout à fait quelque chose d'ordinaire. Et quand on regarde un peu l'histoire à l'échelle de la commune, effectivement, la commune de Saint-Vincent-de-Paul, vous avez cette présence congréganiste très nette jusqu'au début des années 1880. Je l'ai dit, avec la présence d'une part des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul pour les petites filles du bourg de Saint-Vincent, et à Buglos, la même chose pour les servantes de Marie, et en plus à Buglos va se rajouter les frères de l'instruction chrétienne de Plohermel, jusqu'au début des années 1880, et c'est seulement à partir des années 1880 qu'il y a cette bascule vers l'enseignement laïque, avec un projet de groupe scolaire qui est appelé à éduquer tous les enfants de Buglos. Donc au final, c'est Buglos est vraiment extrêmement... Enfin, l'implantation des servantes de Marie est exemplaire de ce qui se fait au niveau des congrégations religieuses au XIXe siècle. La principale singularité, c'est l'association à un pèlerinage. Mais en soi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On retrouve la même chose à Verdelet. Et quand on essaye de voir la connexion entre Buglos et les vocations religieuses, honnêtement, il y a sur les lettres, les registres des sœurs que j'ai pu examiner, de A à L, vous n'avez que trois jeunes filles qui entrent dans les servantes de Marie, qui sont originaires de Saint-Vincent-de-Paul. Donc il n'y a pas eu de Saint-Vincent-de-Paul ou de Buglos, deux de Buglos pour être précis, et une de Saint-Vincent-de-Paul. Donc il n'y a pas eu ce phénomène de pépinière de vocation comme ça peut s'observer dans d'autres parties du diocèse. Le doyenné de Dax, sur la totalité de la période envisagée, donc pour les lettres à elle, c'est 13 vocations. Le doyenné de Saint-Martin-de-Seignanx, c'est 14. Il y a plus de vocations à Saint-Martin-de-Seignanx, dans lequel le père Sestac avait également des attaches, qu'à Buglos. Donc en soi, c'est Buglos, d'un certain point de vue, pour les servantes de Marie, c'est une implantation assez ordinaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Les servantes de Marie à Buglos, un modèle d'implantation pour une congrégation dans les Landes. Vous venez de suivre l'intervention de Nicolas Champ. Le 4e centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Buglos, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la Société de Borda, associée au diocèse d'Eredax, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022.